Vous écoutez France Culture.
Là, on passe de l'univers du livre, on était à côté de la grande, très grande bibliothèque, pour aller dans l'univers de l'image.
Voilà, c'est le début de la déchéance.
C'est-à-dire ?
On aurait peut-être dû faire le contraire, ça aurait été peut-être encore plus amusant.
Oui, commencer par l'image.
De commencer par l'image et de finir par le livre. Non, ça aurait peut-être été pire, en fait. Oui. Non, vous avez raison, alors c'est le bon sens.
Là, on va dans un très grand cinéma de Paris. Les canapés du café où nous allons nous installer me font plus penser au Central Perk qu'au bar de Cheers.
Alors ça, c'est formidable parce que je m'aperçois qu'il y a Harold Lloyd. Et Harold Lloyd, pour moi, c'est l'acteur le plus sitcom, de pré-sitcom qu'on puisse trouver. D'abord parce que lui-même, il n'est pas rattrapé par la culture du bon goût. Là où tout le monde cite Chaplin et Buster Keaton, lui, il est resté relativement populaire. Et il y a un côté athlétique chez Harold Lloyd, dans son rapport au corps, comme ça, qui est totalement sitcom, qui a été récupéré par les plus grands acteurs de sitcom. Donc c'est une sorte d'ancêtre, voilà, qu'on croise ici, qui est bienvenu.
Voilà, on le voit effectivement en photo, sur les murs, transparent, c'est bizarre, de ce merveilleux café.
On va aller s'asseoir à côté de lui, juste voilà. Sous les lunettes.
Benoît Lagane,
Éric Vera,
Série Télé,
L'Amérique en 24 épisodes. Ce soir, épisode 14.
De Cheers à Friends, l'évolution des sitcoms. Alors Eric, on s'installe ce soir dans ce café aux allures de Central Perk, le célèbre café new-yorkais, où se réunissent dans chaque épisode de Friends Monica, Chandler, Rachel, Phoebe, Ross et Joey. Vous êtes servi quoi là ?
C'est un latte.
Ouais. Moi j'ai pris un jus d'orange.
Un grand.
C'est mieux pour tenir en soirée comme ça. Alors nous installons ce soir ici pour vous parler en particulier de l'évolution de la sitcom des années 70 aux années 90. Et peut-être avant de commencer, il faut remonter un petit peu dans le temps. Dans les épisodes précédents, nous avons longuement évoqué le rôle qu'a joué la productrice et comédienne Mary Tyler Moore. Dès les années 70, elle était la vedette d'un show féministe et puis elle était également à la tête d'une société de production, MTM.
Qui donnera quelques-unes des plus grandes séries des années 80, comme East Street Blues, Simple Square.
Voilà, alors, Mary Tyler Moore est par ailleurs connue du public américain depuis bien longtemps, dès les années 60, car elle interprétait le rôle d'une mère au foyer dans une sitcom méconnue en France mais très connue aux États-Unis, le Dick Van Dyke Show.
All right, now where are we in the script?
Well, I was just coming out of the last commercial into the goodnight bit. Let's see. Supposing our star says, "Good night, folks. Sure hope you enjoyed our show. And remember, the Alan Brady thought for the day is, drive carefully, especially on the sidewalks."
No.
Wait a minute. Maybe he says something philosophical like, "Folks, remember, save your money. Someday it may be worth something."
No.
It's a good joke.
I don't think it's a good joke.
What do you think, Sally?
I think it's a great joke.
Why do you think it's a great joke?
Because it's 5:30 and I got a date at 7.
Alors Benoît, si le Dick Van Dyke Show marque les années 60 dans le domaine des comédies, dans les années 70, ce sont incontestablement les productions de Norman Lear qui portent la comédie de situation à des sommets rarement atteints, notamment en matière de critique sociale. Alors le ton de All in the Family, le ton de Jefferson, on va parler des deux plus grandes. Aujourd'hui, bon, c'est des sitcoms qui restent très drôles, mais qui peuvent paraître un tout petit peu désuètes. Il faut bien imaginer que dans cette Amérique des années 70, ces deux séries tirent à boulet rouge sur l'Amérique bien pensante. Hein. Alors, elles le font avec deux autres grandes séries dont on a déjà parlé, qui sont MASH et le Mary Tyler Moore Show. Pour l'instant, si le relais, il nous parle de All in the Family, qui est vraiment un monument de la comédie américaine.
Boy, the way Glenn Miller played songs that made the hit parade. Guys like me, we had it made. Those were the days. Didn't need no welfare state.
Everybody pulled his weight.
G.R.O. was sour and great. Those were the days.
And you knew where you were.
Girls were girls and men were men.
Mister, we could use a man like Herbert Hoover again.
Le 12 janvier 71, c'est la première diffusion de All in the Family et qui, en l'espace d'une soirée, a tout démodé. A rendu caduques toutes les sitcoms qui étaient les sitcoms précédentes. Et en l'espace de 2 années télévisuelles, l'ensemble de la production sitcom est totalement renouvelé par un producteur qui s'appelle Norman Lear et qui va avoir un succès énorme avec All in the Family et qui va en profiter pour décliner un certain nombre d'autres sitcoms sur le même ton et sur le même acabit.
On peut résumer en quelques
oui,
mots.
Oui, alors All in the Family, là aussi, c'est une série qui n'a pas été diffusée en France. Donc pour nous, elle apparaît totalement inédite. Simplement, pour les Américains, c'est une série qui est fondatrice, dont ils parlent encore, parce que y a un ton relativement nouveau. C'est l'histoire d'un ouvrier qui s'appelle Archie Bunker et de sa femme qui habite dans le Queens. Et lui est relativement... dire raciste, ce serait peut-être beaucoup dire, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment la petite droite un peu réactionnaire. Et donc, il habite avec son gendre et sa fille sous le même toit. Et son gendre est un étudiant en sociologie aux idées très libérales, pas marxiste, parce qu'on est quand même aux États-Unis, mais en tout cas d'une gauche qui n'a pas logiquement l'habitude de paraître dans les séries.
When your father was visiting last year, wasn't his name Davy or
Dave.
Something?
My father's name was Dave.
David,
yeah.
Right. And what was your mother's name? It was
Sarah. Name is Sarah. So what?
David and Sarah, two Jewish names.
David and Sarah, two names right out of the Bible, which has got nothing to do with the Jews.
Now, I don't want to get uptight about it, Mr. Bunker. There's nothing to be ashamed of being Jewish.
But I ain't Jewish.
Look at that. Look at that. See the way he uses his hands when he argues? Very Semitic gesture.
What do you know about it, you dumb Pollock?
Et puis, il y a évidemment un certain nombre de situations d'affrontements, qui sont des affrontements idéologiques entre le gendre et le beau-père, mais qui sont basés surtout sur le travail de l'acteur. Parce que la force d'All in the Family, finalement, c'est beaucoup moins la thématique. Au final, quand on la voit aujourd'hui, après tout ce qu'on en a dit, on en est peut-être parfois un peu déçu, mais c'est le jeu de Carol O'Connor, c'est sa manière de faire des grimaces, de postillonner, sa femme, donc Edith, que joue Jean Stapleton, qui trottine d'un bout à l'autre de la cuisine, qui est vraiment l'esclave de la maison, avec sa voix chevrotante et ses difficultés de compréhension à plusieurs niveaux, un peu comme un personnage de bande dessinée, puisqu'elle a des espèces de prises de conscience successives avec des « Oh !» comme ça en plusieurs. Bon, je le fais mal, hein, je vous renverrai au DVD bien sûr. Et puis la petite Sadie Struthers, qui est une sorte de petite poupée blonde qui elle aussi joue à la fois une sorte de petite niaise mais qui est capricieuse aussi. Donc vous avez un jeu en fait des acteurs qui est relativement remarquable, et c'est peut-être la force de Norman Lear, c'est d'avoir compris ce qu'était le sitcom, de s'être servi à un moment donné d'une fenêtre de tir qui était possible au niveau des thématiques, mais surtout de faire venir à la sitcom un certain nombre d'acteurs qui juste là n'en faisaient pas et qui ont déployé un talent dans cette forme comique précise.
Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
Si All in the Family reste attaché au motif familial, on l'a entendu avec Cyril Rollet, les années 80 marquent l'arrivée de la figure du groupe hein, au sein des fictions. Alors groupe d'amis, groupe de collègues, alors on l'a vu quand même déjà hein, dans MASH par exemple, mais dans les années 80 il y a deux immenses sitcoms qui perpétuent ce principe du groupe, c'est Taxi sitcom qui va révéler deux grands comiques, je pense à Danny DeVito, Andy Kaufman, hein, donc ça se passe dans les locaux d'une société de taxi new-yorkaise, et puis Cheers, hein, la Rolls des sitcoms qui va régner sur une partie des années 80 avec sa bande de piliers de bar désabusés, tantôt philosophes, tantôt sous, une série sur tous les petits riens qui a déjà un petit côté Seinfeld avant l'heure, mais on en parlera un peu plus tard. Alors à propos de Cheers, hein, Rob Long, l'un de ses producteurs exécutifs dans les dernières années, il est l'auteur d'un livre hilarant intitulé « Conversation avec mon agent » qu'on peut trouver encore en France aux éditions Actes Sud.
Oui, parce que comme au Central Perk ici, il y a des livres, on peut lire des passages.
Donc dans ce livre, il parle avec justesse du microcosme hollywoodien et Benoît va nous lire un petit morceau de « Conversation avec mon agent ».
Les chaînes de télé aiment ce qui est sympathique. Les auteurs aiment ce qui est drôle. Parfois, rarement, leurs forces se combinent et font naître quelque chose de drôle et de sympathique. D'autres fois, presque toujours, la chaîne impose ses vues et c'est l'avènement dans le paysage audiovisuel d'un nouveau village du bonheur peuplé de braves gens qui progressent, qui partagent, qui se parlent, qui s'étreignent à vous en donner des boutons. D'autres fois encore, suivant à peu près la fréquence de la comète de Halley, les rouages gluants de la machine laissent échapper quelque chose qui se révèle à la fois drôle, sympathique, neuf et malin, Seinfeld par exemple, ou encore Cheers.
Cheers, la fameuse série sur laquelle lui il a travaillé. Alors on pourrait vous lire le livre, hein, qui est vraiment très drôle. Je peux peut-être continuer?
Oui, juste un petit bout, allez, pour faire plaisir.
La charte de Cheers était brève. Article 1er, être drôle. Article 2, en cas d'hésitation, se reporter à l'article 1er. Et surtout, pas de tunnel entre les rires. Il faut noter que le fondement philosophique de cette position était une certaine humilité, qui postulait que le public était globalement au moins aussi intelligent que nous. Donc ça, bon, moi je trouve que c'est plutôt bien vu et que c'est un bon postulat pour faire rire les gens, effectivement.
Oui, parce que dans le cas de Cheers, on a vraiment un public très différent qui va se retrouver devant son poste de télévision. Un public habitué aux sitcoms traditionnels qui vient pour passer un bon moment et ricaner, quoi, et se marrer devant sa télé. Et puis un public du monde intellectuel qui raccroche aussi les wagons. Et c'est une des sitcoms comme celle de Norman Lear qui vont réussir à cristalliser tout
ça. C'est bien typique de cette époque.
Alors, faut pas oublier que dans les années 80, il y a quand même toute une vague de sitcoms
que vous adorez, Benoît.
Oui, enfin, elles sont plus ou moins réussies.
Vous allez le manger, votre muffin, ou pas?
Non, vous inquiétez pas, je le mangerai juste après. Mais laissez-moi vous parler, avant tout, de ces séries des années 80, qui, comme je le disais, sont peut-être très traditionnelles, mais qui ont une valeur nostalgique quand même assez forte, jusque chez nous, en France. Je pense aux aventures de la petite orpheline Punky Brewster, au duo de jeunes Black, Arnold et Willy. Toutes ces séries sont dans les années 80. Ricky, le richissime Ricky ou la belle vie. Il y a Charles qui s'en charge. Plus loin dans la décennie, on a également, alors ça pour le coup c'est quand même une série qui est un petit peu au-dessus, Alf qui veut manger des petits chats, ou alors la série qui permet aux jumelles Olsen de faire leur premier pas à la télé, toute bébé dans la fête à la maison. Mais c'est surtout la grande période de Madame est servie, ou encore Quoi neuf docteur. Quand on parle de ces séries aujourd'hui, on a parfois un petit peu honte, tellement on les trouve un petit peu fades, voire sans grand intérêt. Mais bon, ça rappelle quand même d'énormes souvenirs.
Ici, on est entre soi, donc personne ne nous écoute. Donc, vous pouvez être tranquille, vous pouvez dire que vous vous souvenez un petit peu de Quoi neuf docteur. Ah oui, je me souviens du jeune héros, de la mère blonde frisée, etc. Ah oui, ça me dit vaguement quelque chose. Voilà. Parce que la télévision, c'est aussi ça, c'est aussi vaguement quelque chose.
Donc, elle racontait quelle histoire ?
Elle racontait l'histoire schématique que racontent les sitcoms domestiques depuis les années 50, c'est-à-dire qu'on est face à une famille mononucléaire avec enfants biologiques à l'époque, parce que c'est encore les années 80, blanches, d'origine anglo-saxonne, en tout cas avec un nom anglo-saxon, à qui il arrive un certain nombre d'aventures, des aventures jamais graves, où le gamin, enfin en tout cas l'adolescent, est plutôt effronté à la manière de Tom Sawyer, et finalement qui finit en moins de 20 minutes à rentrer dans le rang tout en ne niant pas le fait qu'il est quand même resté effronté et que c'est ce qui fait sa spécificité d'enfant. Donc il y a cette espèce de tension entre une sorte de vision un peu naturelle du teenager et puis une sorte d'acculturation aussi avec la famille. Mais aujourd'hui, ça paraît complètement désuet puisque le motif s'est complètement renversé dans les années 80, de manière caricaturale aussi d'ailleurs, et commerciale.
Cyril Rollet a étudié dans le cadre d'une thèse très intéressante cette série, Quoi neuf docteur. Sur notre page internet franceculture.com, vous pourrez justement l'écouter plus longuement. Il vous expliquera pourquoi il a décidé d'étudier cette sitcom, qui est pour lui assez révélatrice de l'évolution de ce genre à l'époque. Mais en ce qui nous concerne ce soir, petit rappel des tendances de l'époque.
Cosby arrive à la télévision en 84, au moment où on pensait que le genre était mort. Et donc, il a étonné tout le monde, puisque non seulement le sitcom n'était pas mort, parce que les gens faisaient toujours référence aux années 70 et à Norman Lear, en disant que le sitcom était rentré en décadence et que c'était une forme ancienne, parce qu'il y avait les rires sur la bande-son, même si les gens étaient présents effectivement dans le public, mais qui donnait un rapport à la fiction classique, qui donnait une forme d'archaïsme. Et Cosby est arrivé à revitaliser tout ça, mais en même temps il y a une perte évidemment au niveau du côté mordant dans les intrigues. Et donc il y a eu suite au Cosby Show un grand nombre de séries, dont Quoi neuf docteur, dont Valérie dont on parlait tout à l'heure, et Madame est servie, etc., qui sont basées plus ou moins sur les mêmes modèles et qui tentent de décliner, mais avec beaucoup moins de réussite, ce qu'a fait Bill Cosby. Et ensuite le vrai tournant, en fait, c'est la fin des années 80 avec Marié deux enfants, d'une part, pour la Fox, et puis Roseanne, qui eux prennent à contre-pied. Alors là, c'est la politique du contre-pied, puisque tout ce qui était prôné dans les sitcoms traditionnels, canoniques des années 50, bien sont renversés pour en faire totalement autre chose. Et là encore, c'est basé, notamment Roseanne, sur des acteurs qui sont des acteurs assez exceptionnels, comme Roseanne, qui n'est pas du tout une actrice traditionnelle, qui a fait des cours d'art dramatique. Enfin, elle aussi, d'abord, elle garde son prénom, et puis elle a eu une vie avant la télé, qui est une vie d'américaine tout à fait banale.
Allez, arrêtez de danser, Eric, c'est à vous.
Oui, alors Benoît, vous parlez des séries futiles, des séries dont on avait quelquefois un peu honte. Mais bon, les sitcoms vraiment célèbres, les sitcoms suivis par 25-30 millions de téléspectateurs chaque semaine, pouvaient aussi être des tribunes efficaces. Alors c'est le cas de par exemple de Murphy Brown, sitcom à succès dans les fin des années 80, qui mettait en scène Candice Bergen dans le rôle d'une journaliste célibataire, qui décide à un moment de la série d'avoir un enfant toute seule. Et donc c'est un événement fictionnel qui va déclencher des critiques, mais des vraies critiques médiatiques de la part du corps républicain de l'époque. Et donc tout ça va se cristalliser entre un affrontement entre Candice Bergen, Murphy Brown, et puis Dan Quayle, le vice-président de l'époque. Et Cyril Rollet nous en parle.
Oui, alors une réactivité dans Murphy Brown qui est incroyable, puisque vous êtes d'abord dans un épisode où elle montre une mère célibataire, ouais. Ensuite vous avez Dan Quayle, qui à l'époque est vice-président, qui critique un épisode de Murphy Brown. On imagine difficilement en France une polémique autour d'un épisode de série française, ce serait difficile en même temps de polémiquer. Et la réponse en plus de Murphy Brown et même de Candice Bergen, puisqu'il y a toujours ces moments de brouillage où on ne sait plus évidemment qui parle, où elle rappelle à Dan Quayle que l'Amérique finalement dont elle parle, c'était pas du tout justement l'Amérique à laquelle lui fait référence, c'est-à-dire une Amérique figée, et elle apporte sur le plateau du sitcom, on ne sait plus si c'est le plateau du sitcom, celui de Murphy Brown, etc., elle apporte un certain nombre de... Enfin, c'est vraiment le moment où le sitcom rentre dans l'espace public. En fait, c'est aussi un rapport à l'espace public. Et donc Murphy Brown, ça c'était dans les années début des années 90, cet épisode doit dater de 91 peut-être, ou dans ces eaux-là. Je ne suis pas sûr que aujourd'hui, l'espace public s'est probablement déplacé et n'est plus à ce point-là dans le sitcom, où même depuis Friends, on a plus l'impression, alors là, on est dans le, l'écriture et le schéma scénaristique à double détente, puisque vous avez non seulement une intrigue particulière, mais aussi quelque chose qui est une intrigue au niveau de la saison, où les rapports des personnages ont repris un petit peu les modèles du soap-opéra ou du feuilleton, puisque d'un épisode à l'autre, les données ne sont pas complètement remises à zéro, comme c'était le cas par exemple dans I Love Lucy, où on fait du surplace, quasiment du surplace, parce qu'on fait jamais vraiment du surplace, parce que les acteurs vieillissant eux-mêmes, à qui il arrive des choses, ça aussi ça doit être intégré au scénario, ne serait-ce que les grossesses, la grossesse de Lucille Ball, voilà, de Little Ricky, mais même Lucille Ball, elle n'était pas première, puisque là c'est le premier sitcom qui s'appelle Mary Kay and Johnny qui a inventé ce genre de choses, puisque c'était déjà joué par un vrai couple qui va mettre en scène leur vrai bébé. C'est le premier sitcom. C'est pour ça que la pipolisation dont on nous rebat les oreilles actuellement comme quelque chose qui aurait à voir avec la modernité face à un archaïsme où les gens auraient été beaucoup plus prudes, eh bien, on s'aperçoit qu'en tout cas ce modèle il fonctionne pas du tout pour la télévision américaine, puisque le mélange entre ce qu'en disait la presse et même ce qui était montré à l'intérieur même du sitcom, c'était déjà l'ouverture vers l'identité des acteurs eux-mêmes. C'est pour ça que les performances actorales, elles sont premières, parce que les acteurs se présentent aussi comme acteurs, alors que dans une fiction classique, généralement, tout le travail de l'acteur, et notamment dans l'acteur studio, c'est de faire croire qu'on peut être différent et que c'est tout le travail de l'acteur de jouer les différences, etc. Alors que dans un sitcom, c'est tout le travail de l'acteur, c'est de jouer la similitude. C'est de se jouer lui-même, et donc là, il faudrait avoir presque un avis de psy, parce qu'il y a un rapport avec le théâtralisme aussi, avec l'auto-mise en scène dans le sitcom. Les sitcoms les plus réussis sont ceux dans lesquels l'acteur finit par tellement imposer le personnage que finalement, les scénaristes vont écrire le personnage en fonction de l'acteur. Et là, c'est la réussite complète du sitcom, c'est exactement cela.
Pour moi, ce bouton ne peut pas être plus mal placé. Alors, le deuxième bouton, là, c'est lui qui fait ou ne fait pas la classe d'une chemise, regarde ça. Il est beaucoup trop haut. C'est le vrai drame. On dirait que t'habites chez ta mère.
T'as fini, tu vas me lâcher.
Et quand tu achètes, tu essaies ta chemise, bien sûr.
Oui, elle était mauve, elle me plaisait. J'ai pas longtemps philosophé sur la place des boutons.
Ah, tu te rappelles plus.
Non, autre chose peut-être, mais ça, non.
Mon pauvre vieux, c'est comme ça qu'on peut passer à côté de la fortune.
Monsieur Sandfeld, monsieur Costoso.
T'es sûr que c'est des décaféinés? Il n'y a pas le point orange.
Et est parti. J'ai appris tout ça par cœur. Décaféine à gauche, normal à droite. Déca à gauche, normal à droite. C'est bigrement valorisant comme boulot.
Il faut pas avoir les nerfs qui lâchent. C'est du café et Claire est une professionnelle dans le genre.
Crois-moi, Georges, personne n'a intérêt à te voir en overdose de caféine.
Alors, le meilleur exemple de cette porosité entre la star de sitcom et son personnage, bah, c'est Seinfeld, hein, et son interprète, Jerry Seinfeld, qui crée et compose en 90 l'une des grandes comédies de la télévision américaine. Alors, ce serait dur de parler de Seinfeld ici. Il faudra peut-être l'été hein, pour en parler précisément, mais la série elle est célèbre parce que en fait c'est la fameuse série sur rien du tout, hein. Donc chaque épisode a pour point de départ un détail anodin de la vie de tous les jours, et puis ça nourrit l'expérience et de l'auteur et puis du personnage, et comme par hasard ce personnage il fait de la stand-up comédie, donc et on la voit dans la sitcom, donc tout ça s'interpénètre et se nourrit, et c'est bien typique de ce type de série où la porosité existe. Seinfeld, elle ouvre une période faste pour la sitcom avec des productions comme Everybody Loves Raymond, avec le comique Ray Romano, Mad About You avec le comique Paul Reiser,
Dingue de toi,
ouais voilà, ou encore Frasier dans le personnage principal. Frasier Crane est un ancien personnage de Cheers justement, donc vous voyez c'est un petit monde.
Alors il y a bien évidemment en ce début des années 90 une autre grande sitcom qui déboule sur NBC, Friends. C'est vraiment une série qui impose quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est le côté feuilletonnant. C'est-à-dire que quand on décide d'installer des personnages qui ont 20 ans en début de saison, bah forcément, 10 ans plus tard, ils auront un peu grandi. D'autant plus que toute la série se base sur ces personnages qui sont des grands-enfants ou des jeunes adultes. Pour preuve, Joey, un des personnages de la bande, qui est le grand gamin, et qui n'arrivera, lui, je pense, jamais à atteindre la maturité. Il y a son colocataire, Chandler, qui, lui, jongle et flirte sans cesse entre le monde de l'enfance de son colocataire Joey et celui de l'âge adulte, qu'il découvre notamment aux côtés de sa compagne Monica. Monica, elle, c'est peut-être la plus adulte, hein, peut-être parce que c'est son rôle de grande sœur. Grande sœur de qui ? de
De Ross, forcément.
Voilà, Ross qui, lui, est universitaire et donc il joue au grand, lui. Mmh. Il a tendance à jouer au grand garçon. Et puis il y a Phoebe. Phoebe, elle, c'est la sorte d'étudiante attardée, un petit peu un post-hippie. Ce qui est assez intéressant, j'en oublie une, mais volontairement, et je vais en parler, c'est le personnage de Rachel, parce que toute la série commence avec elle, et je trouve que son histoire est à l'image de la série tout entière. Dès le premier épisode, la fille à papa Rachel décide de prendre enfin son avenir en main en s'émancipant financièrement. Elle découpe, on la voit découper par exemple les cartes de crédit de son cher papa, et puis elle se libère aussi d'un avenir tout tracé de tendre et chère épouse, en laissant dès ce fameux pilote son fiancé le jour de son mariage pour devenir une jeune femme célibataire et célibatante, une vie qui l'amènera de petit boulot jusqu'au job de sa vie. Donc là, on voit bien que ce qui fait la force de cette série, et c'est sans doute ce qui explique son succès, c'est que non seulement les comédiens sont très bons, on est dans la dynamique de ces comédiennes sitcom qui imposent quelque chose, des scénars impeccables, pondus par les créateurs de Dream On, une série de la HBO, et puis, bien évidemment, ce côté feuilletonnant. Et je pense que si cette série a un énorme succès, c'est parce que le téléspectateur a pu grandir avec ses personnages.
Il y a aussi dans la forme sitcom quelque chose de totalement libre où les scénaristes doivent faire évoluer la série en fonction de ce qui se passe, en fonction des aléas de la vie. Parce que la différence d'un film qui est écrit, où les gens tournent pendant 3 mois et ensuite qui est monté et où l'incident, en tout cas la contingence, n'a pas grand-chose à y faire, là on est face à quelque chose qui est totalement différent et personne ne maîtrise véritablement le processus. Et c'est ce qui le rend véritablement intéressant, puisqu'à chaque fois, il faut revenir sur le métier, comme on dit, et puis retravailler avec des acteurs qui doivent être capables de prendre au pied levé les aléas, comme vous citiez Cheers, c'est la même chose, les différents départs des personnages, le départ de Shelley Long et la manière dont elle a été remplacée, etc., etc.
J'ai deux sitcoms que j'adore dans cette période. Il y a That 70 Show qui s'amuse à raconter la vie d'un groupe d'adolescents du Wisconsin dans les années 70. Cette série reprend certains codes des sitcoms des années 70. On pense notamment à Norman Lear et à All in the Family. Et je pense que l'influence de Friends, la série vedette de l'époque, est aussi indéniable.
C'est une sitcom produite par Kersey Werner, qui a produit Cosby, qui a produit Roseanne. Hein, donc il y a une ligne droite dans tout ça, il y a une logique dans tout ça. Ouais.
Et puis, il y a Troisième planète après le Soleil, les histoires d'une famille d'extraterrestres déjantés qui, ayant pris forme humaine, étudient avec un malin plaisir les us et coutumes de la race humaine.
Les enveloppes humaines dont sont pourvus les extraterrestres ne correspondent pas à ce qu'ils sont réellement en tant qu'extraterrestres. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le garde du corps et celui qui sait très très bien se battre se retrouve incarné dans une femme, donc il devient très très masculine. Le chercheur, lui, non, le patriarche du vaisseau est incarné dans un enfant, donc voilà, il crée le décalage. C'est vrai que c'est très très drôle.
We're still taking calls on those UFO sightings. I'm on the line with Jennifer, who claims to have actually met aliens.
Gary, I have been sucked up by alien spacecraft many times.
Uh-oh.
And I can tell you, they are among us.
Really? Now, what do you suppose they want?
Well, they want my eggs to start their own alien race.
On vient de parler du sitcom qui avait eu énormément de succès durant ces années 70, 80, 90. La sitcom, elle va quasiment imploser juste à l'arrêt de Seinfeld, Friends, Everybody Loves Raymond. Et il y a une saturation. Hein. Les gens ont un petit peu assez de ce type de comédie. Alors, aujourd'hui, la sitcom se relève doucement. Hein. Cette année, on a eu The Big Bang Theory aux États-Unis, une série vraiment très très drôle. Hein. Mais la comédie, elle est revenue sous des formes différentes. Alors sans public, par exemple, ou en extérieur, ou alors avec un narrateur. Je pense à Aristide Development, que vous aimez bien, Benoît. Mm-hmm. Donc la comédie, les grandes comédies de ce moment, c'est Scrubs, c'est Aristide Development, c'est The Office, hein, qui joue aussi avec la forme semi-documentaire, docudrama, et donc on voit un petit peu vers quoi la comédie tire, et on s'éloigne quand même un petit peu de cette tradition du jeu en public. Mais bon, comme tous ces genres, c'est des cycles, et donc j'imagine que c'est aussi appelé à revenir.
Vous avez vu, j'ai commencé mon muffin.
Donc je vais en prendre un aussi.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes.
Une émission de Eric Vera et Benoît Lagalle.
Prise de son, Frédéric Kérou.
Mixage, Pierre Mine.
Réalisation, Lionel Quentin.
Merci à Fabien, Chris et Mousse du Starbucks Café d'Alésia.
Toutes les références des séries disponibles en DVD sur notre site web franceculture.com. Et puis n'hésitez pas à vous plonger dans les pages de la revue Générique, le magazine de la culture série.
Rendez-vous lundi à 22h30 pour notre 15e épisode consacré à HBO.
Bonne nuit.
Il est 23h sur France Culture. Dans un instant, retrouvez Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.